Comme je disais, nouvelle série de prédications sur le livre de Néhémie. Je pense que c'est un livre qui est précieux pour l'Église parce que ça nous rappelle que l'Église n'a pas commencé seulement il y a 2000 ans. C'est une continuité du projet de Dieu depuis la création du monde. Et justement, on va découvrir ça. C'est l'histoire de l'Église. Si vous avez déjà lu un peu la Bible, vous allez voir que ben, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il se passe toujours quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'imaginer que parce que l'Église est le projet de Dieu, tout s'y déroule parfaitement, je veux vous dire que c'est une utopie. Si vous fréquentez une Église depuis un certain temps, y compris la nôtre, vous vous rendez compte que ben, vous êtes entouré de gens imparfaits. Désolé de vous le dire comme ça. On essaie de plaire à Dieu, de lui confier nos vies. Mais c'est vrai que tout ce qu'on fait, bah, ça ne correspond pas tout à fait aux exigences de Dieu. Mais on veut lui faire confiance dans chaque aspect de nos vies, y compris pour lui ressembler toujours davantage. Et toute la Bible démontre des difficultés qu'a l'Église, le peuple de Dieu, à plaire à Dieu, à rester droit dans les commandements de Dieu et ce qu'il attend de nous. Et on voit que ben, Dieu, régulièrement, il suscite des leaders. Et ces leaders, ben, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils font aussi des erreurs. Vous voyez, même pour des leaders comme Joseph, il a un parcours extraordinaire, mais par contre, par moments, il fait des erreurs. Vous voyez Moïse, c'est un gars qui avait du courage, mais à un moment, comme on l'a lu récemment, il a tapé le rocher alors que Dieu ne lui avait pas demandé. Vous trouverez toujours quelque chose parmi un des leaders qui est décrit dans la Bible, y compris Pierre, y compris Paul, et ainsi de suite, ils feront des erreurs. Et chacun des chrétiens fera des erreurs. Il faut se le dire. Nous sommes en chemin. Mais un jour, nous serons à la stature parfaite de Christ. Ça ne dépendra pas de nous, mais c'est une grâce de Dieu. Et c'est là, c'est bon de se le rappeler par moments. Le projet de Dieu s'accomplit parfaitement avec des personnes imparfaites qui accomplissent des actions imparfaites. Mais Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant. Et même dans des contextes qui peuvent parfois paraître chaotiques, comme par exemple une ville en ruine, une ville où des personnes vivent au quotidien dénuées de tous les besoins, enfin, ils n'ont pas tout ce qu'ils auraient besoin dans leur quotidien, mais là aussi. Il peut y avoir des conflits même dans l'Église, y compris, on va voir, dans cette ville de Jérusalem qui est en ruine. Mais Dieu permet des réveils spirituels. Parfois, on prie pour des réveils spirituels, on se dit, en fait, finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien qui un jour va se dire, ah tiens, ça serait bien que je connaisse Dieu. Effectivement, ça c'est bien. Mais le réveil spirituel, ça commencera d'abord par toi qui es chrétien, par toi qui es disciple de Jésus-Christ, qui dit, je veux vivre pleinement ma vie de disciple de Jésus-Christ. Et pour vous dresser peut-être un tout petit peu le contexte de ce qui se déroule, pour pouvoir saisir en fait vraiment les enjeux qu'on va voir ensemble, il faut savoir qu'en 586, avant Jésus-Christ, un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar a détruit la ville de Jérusalem, les murailles, les portes de la muraille, et le temple. Et il emmène le peuple en déportation. Et c'est un choc qui va rester gravé dans la mémoire de tous les Israélites. Mais comme on l'a vu récemment avec Cédric, le pasteur de Ponto-Combo, qui est venu, qui nous a parlé du livre d'Esdras, en 537, il y a les premiers Israélites qui ont la possibilité de revenir à Jérusalem et qui commencent à rebâtir. Et recommence à rebâtir au moins les maisons pour pouvoir y vivre, y remettre en route l'agriculture, et ainsi de suite. En 516, avant Jésus-Christ, il y a Agé qui est envoyé à Jérusalem, et là, son job avec le peuple, c'est de reconstruire le temple. Mais ce temple, il est bien moins spacieux, bien moins imposant, bien moins beau que celui de Salomon. En 458, avant Jésus-Christ, c'est Esdras qui a envoyé avec 2000 personnes pour continuer la reconstruction. Et nous arrivons en 444 avant Jésus-Christ, où nous découvrons le livre de Néhémie qui couvre une douzaine d'années. Et lorsque Néhémie arrive, le temple est reconstruit depuis environ 70 ans, mais les murailles et les portes de la ville sont toujours en ruine. Et ça laisse la ville sans défense. C'est un champ ouvert au pillage. Et ça reflète un peuple qui est brisé. Loin de la gloire du passé, chaque jour, ils voient des ruines devant eux. Quand ils ouvrent la porte, ils voient les portes en cendres. Et nous voyons qu'à un moment, dans Esdras, au chapitre 4, en fait, il y a une tentative de reconstruction des murailles, mais tous les peuples autour se liguent contre ce projet-là, et le projet est arrêté parce qu'ils se plaignent auprès du roi Artaxerxès, qui publie un décret pour dire « on refuse de reconstruire cette muraille ». Et on arrive au livre de Néhémie, qui est un récit autobiographique. C'est Néhémie qui parle de comment il a vécu les choses. Et on découvre Néhémie. On découvre que pour lui, tout va bien. On va le voir par la suite. Sa position est confortable. C'est pas un prophète. C'est pas un roi. C'est un gars qui fait simplement son job dans son quotidien. Mais on y voit une vision puissante de la personne de Dieu. Il nous décrit sa vision de la gloire de Dieu. Et il nous montre aussi son cœur pour ses prochains, pour son peuple, le peuple de Dieu. Et je crois que dans notre Église, nous avons besoin de personnes qui ont le cœur de Néhémie, mais aussi les tripes de Néhémie. Et Dieu appelle des chrétiens ordinaires comme toi et comme moi à faire sa volonté. Et c'est pour ça qu'il dépose un fardeau pour le royaume, un fardeau pour notre Église, pour toute notre Église, pour le royaume, mais un fardeau individuel à chacun d'entre nous, pour son royaume. Mais aussi un espoir qui n'est pas porté par des rêves qu'on pourrait avoir comme ça, mais un espoir qui est biblique, un espoir qui est fondé sur la volonté de Dieu. Et enfin, c'est aussi un engagement personnel et collectivement pour le royaume de Dieu. Et je propose qu'on puisse voir cela ensemble et qu'on puisse lire ce texte donc dans Néhémie. Donc, si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 333. Si vous avez une Bible comme ça, si ce n'est pas la même, ça ne marche pas. Et sinon, ça se trouve dans la première partie de la Bible, donc dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et alors là, bon courage. Donc il y a Deutéronome, vous continuez, 1 Samuel, 1 Roi, 1 Chronique, et après vous arrivez doucement à tout ce qu'on appelle les petits prophètes. Et donc c'est bon courage, c'est des livres qui ne sont pas très épais. Donc si vous voyez Esdras, vous n'êtes pas loin. Et après, Néhémie au chapitre 1. Et je vais commencer la lecture. Et si vous ne le trouvez pas, ou si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. Parole de Néhémie, fils de Hakadia. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès. Alors que je me trouve à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation, au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés pour ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté tes commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous étiez exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ce que tu as racheté par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Et Père, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous parler chacun individuellement ce matin. Je te prie, s'il te plaît, de m'aider à avoir les mots justes. Parce que nous ne voulons pas cultiver la culpabilité, mais nous voulons cultiver le royaume de Dieu en nous. Nous voulons t'adorer toi seul, nous voulons te glorifier dans nos vies, dans nos choix, dans nos actions. Et nous voulons, par moments aussi, savoir nous repentir et te mettre à chaque fois en priorité dans nos vies, dans notre Église, et que tu sois le roi, notre roi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Et là, on voit Néhémie qui a un fardeau pour le royaume de Dieu, un fardeau pour le projet de Dieu. Et il dit, je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation, au sujet de Jérusalem. Il y a deux sujets qui intéressent Néhémie, les personnes et la ville de Jérusalem. C'est-à-dire son peuple, le peuple de Dieu, mais aussi la ville qui est le lieu de l'adoration de Dieu de ce temps-là. Et on peut le transposer finalement déjà assez facilement à notre contexte. Le peuple de Dieu, c'est son Église. Et pour nous, c'est la personne qui est assise à côté de toi. Ou la personne qui devrait être assise à côté de toi. Et la ville, ben, c'est le siège du temple, c'est le lieu de l'adoration. Ce qui comptait pour Néhémie, c'est que Dieu soit adoré, que Dieu soit glorifié, que l'honneur de Dieu soit restauré. Il se doutait que ça n'allait pas bien, mais il a une réponse qui va le plonger dans la tristesse. Au verset 3, « Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. » La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Alors pourquoi les murailles sont importantes? C'est à la fois une protection. Il n'y avait même pas besoin d'armée là. Même une bande de pillards pouvait voler tout ce qu'ils voulaient, pouvait interrompre le culte à Dieu. On pouvait faire. La justice n'était même plus appliquée d'une certaine façon dans cette ville. Et c'est le déshonneur. Imaginez, vous ouvrez la porte tous les matins et vous voyez en fait des brèches, des tas de cendres autour de vous. C'est insécurisant. Et vous dites, je suis dans la ville où Dieu a décidé qu'on l'adore. Vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je me dis, effectivement, je pense que nous, on a tous dans notre cheminement de vie des ruines quelque part. Peut-être personnelles, peut-être aussi des ruines dans ce qu'on aurait pu espérer de l'Église. Mais là aussi, je pense que ce message peut nous parler, peut nous encourager. Et comprenez que Néhémie sait certainement que la situation, elle n'est pas bonne. Mais à ce moment-là, lorsqu'il entend ça, son cœur, il est bouleversé. Il reçoit un fardeau divin. Et vous voyez, Néhémie, ce n'est pas un émotif, c'est un dur à cuire. On va le voir par la suite. Pourtant, la souffrance du peuple, le déshonneur de Dieu, Néhémie s'effondre. Il a besoin de s'asseoir, c'est la première chose qu'il fait. Tellement ça le bouleverse, tellement ça le touche au plus profond de son cœur. Il se dit, c'est pas possible. Il y a son monde qui est en train de s'arrêter. Et à partir de ce moment, Néhémie reçoit un fardeau divin pour la gloire de Dieu et le grand besoin du peuple. Et dans notre vie, je pense que c'est arrivé déjà à plusieurs d'entre nous, il y a des moments où on se retrouve face à une situation qui nous arrête net. Ça peut être une maladie, un deuil, perte d'un travail, une difficulté relationnelle, peut-être des difficultés dans le couple, peut-être parfois même une trahison. Et ce qui est particulier dans ce texte-là, c'est que tout ça n'arrive pas à Néhémie. Mais Néhémie, pour lui, tout va bien. Mais Dieu dépose sur son cœur le fardeau des enfants de Dieu, le fardeau du royaume de Dieu. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu entends des personnes qui insultent Dieu? Est-ce que tu sens ce fardeau de la gloire de Dieu qui se pose sur ton cœur où tu ne peux pas te contenir lorsqu'on dit du mal de Dieu? Ou peut-être lorsque quelqu'un calomnie des membres de l'Église, calomnie l'Église, calomnie Dieu, quelqu'un qui vit volontairement dans le péché, qui déshonore le royaume de Dieu. Que les personnes autour de toi ne se sentent pas concernées par la représentation de la gloire de Dieu. Ou simplement qu'ils passent quotidiennement à côté des souffrances de leurs frères et sœurs. Est-ce que nous voyons parfois le déshonneur dans l'Église? Dans une église que j'ai fréquentée, le fond du mur, il y avait un couloir, et on pouvait voir à travers le mur les personnes qui passaient derrière, des fissures. Moi, tous les dimanches, je me sentais mal en voyant ça. Pas que l'Église est quelque chose de particulier hein, pour la gloire de Dieu, mais je me suis dit, mais c'est comme ça qu'on entretient ce que Dieu nous a confié? Quand as-tu pleuré pour ton Église la dernière fois? Ce manque de pertinence, de zèle, d'impact dans la région? Pleurer lorsque quelqu'un est venu apporter un faux enseignement, un enseignement qui détourne de Dieu, ou fait un show à sa gloire au lieu de glorifier Dieu? Moi, ça m'est arrivé. Quand as-tu pleuré pour les habitants qui, nombreux autour de nous, ne connaissent pas Christ et passent toute leur vie sans le connaître, sans connaître cet espoir? Alors, l'objectif, là, c'est surtout pas de culpabiliser, mais de savoir qu'il y a ce fardeau que Dieu veut nous confier. Et c'est vrai que parfois, c'est une telle souffrance que on préfère le laisser là et continuer notre chemin. J'étais comme ça aussi. Hein. Et il y a des moments, je suis comme ça aussi. Et ce n'est pas du tout pour culpabiliser, mais je crois que ce matin, Dieu veut nous laisser un fardeau pour son royaume. Et ce n'est pas un fardeau de culpabilité, c'est un fardeau pour sa gloire. Alors vous me direz, c'est Néhémie, c'était il y a 2500 ans et des brouettes. Mais j'ai envie de vous partager aussi ce que Jésus nous a laissé. En Matthieu, au chapitre 9, « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et ce qui est beau, c'est que j'imagine les disciples, ils prient à ce moment-là et disent, Seigneur, envoie des personnes pour annoncer la bonne nouvelle à ces personnes, pour leur donner la joie de te connaître, la paix, qu'ils puissent être réconciliés avec toi. Vous savez ce qui se passe au chapitre 10, verset 7, quelques lignes en dessous? Jésus dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Alors tu vas me dire, je ne suis pas prédicateur. Après, c'est une question de verbe. Si tu prends la version du semeur, par exemple, il dit, partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. C'est accessible à tous les disciples de Jésus de dire, il y a de l'espoir, il y a une bonne nouvelle, et c'est proche de toi. Alors, comment peut-être, on a tous un appel finalement pour servir dans le royaume de Dieu, à adorer Dieu, et c'est commun à tout le monde. Tu ne peux pas dire c'est juste le voisin à gauche ou à droite, hein. Mais comment discerner peut-être un appel particulier que tu as pu avoir? Bah, la reconnaissance d'un appel, ça commence toujours par un fardeau que tu commences à porter. Un temps où quelque chose qui te semblait peut-être pas te concerner, Dieu te le confie. Peut-être des personnes particulières à les rencontrer. Mais il y a ce temps aussi où on le voit avec Néhémie, un temps de discernement de la volonté de Dieu. Puis à un moment, il faut se lancer. Et il faut se dire que, alors moi j'étais comme ça il y a quelques années, j'attendais toujours une confirmation spéciale de Dieu pour me lancer. C'était limite, vous voyez, le petit poussé avec des cailloux, avec plein de trucs miraculeux qu'il me fallait pour aller d'avant. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de la vie chrétienne, en fait, Dieu nous donne des convictions et on doit faire un pas après l'autre et aussi accepter qu'on puisse se planter. Mais savoir qui sera toujours avec nous. Et c'est pour ça que parfois on veut faire plein de choses à l'extérieur de l'Église. Mais j'ai envie de te dire le premier lieu de service, le premier lieu où règne le royaume de Dieu, le premier lieu où tu dois être solidaire, le premier lieu où tu dois t'engager, c'est ta famille. Tu ne peux pas être berger ou annoncer la bonne nouvelle si tu ne l'annonces pas dans ta famille, si tu ne le vis pas dans ta famille. Et après, le deuxième lieu, c'est ton église locale. L'église locale, ce n'est pas le bâtiment. C'est les personnes qui sont autour de toi aujourd'hui et les personnes qui devraient être ici. Et parfois, on le voit, il y a des ministères plus larges qui ont aussi besoin de reconnaissance. On l'a lu il y a récemment, il y a Paul et Barnabas. L'église est en train de prier, de jeûner et il les envoie pour implanter de nouvelles églises, encourager les églises. Timothée, pasteur. À un moment, il y a les anciens qui lui imposent les mains et qui le confirment dans sa vocation, parce qu'ils ont tous discerné qu'il a cet appel de Dieu. Et en Éphésiens 4, qu'on a lu récemment, Dieu donne des ministères de bergers, d'évangélistes, de prophètes, et ainsi de suite, pour aider, pour former l'Église au service. Ce n'est pas eux qui vont tout faire, c'est des personnes qui vont aider chaque membre de l'Église à servir. Et il y a toujours cette confirmation qui vient de Dieu, mais qui vient aussi de l'Église. Alors, vous me direz, mais en fait, moi, j'étais déçu de l'Église. J'ai envie de te dire, moi aussi. Quand j'avais 18 ans, j'ai vécu des choses tellement compliquées dans l'Église dans laquelle j'étais. Je suis un miraculé de l'Église aujourd'hui. À un moment, je m'étais dit, mais en fait, je veux servir Dieu. J'ai senti cet appel-là depuis que j'étais tout petit. Et je me suis dit, bah, au lieu de le faire dans l'Église, je veux le faire dans des œuvres chrétiennes. Alors, du coup, j'ai fait des bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Et à un moment, Dieu m'a repris et m'a dit, c'est dans l'Église que je te veux en premier. Et j'ai envie de te dire ça ce matin aussi. Dieu est suffisamment puissant pour te guérir, te consoler. Et te redonner cette joie nouvelle pour le service dans son église, malgré les choses difficiles que tu as pu vivre. Et je prie ce matin pour que Dieu nous donne un cœur et des yeux et des oreilles pour ressentir ce fardeau ce matin, pour voir les besoins du royaume de Dieu et y répondre avec les forces que Dieu nous donne. Chaque jour suffit à sa peine, on dit. Mais aussi le courage de nous soumettre à sa volonté. Parce que, en tout cas, moi, parfois, je me dis, mais comment je vais faire avec ça? Et je préfère regarder un peu ailleurs. Je ne sais pas, c'est peut-être que moi. Hein, Mais vraiment, je crois que Dieu nous donnait un fardeau pour son royaume. Et ce matin, on ne parle pas souvent de ces sujets-là, mais je crois que c'est un temps où Dieu veut nous parler chacun. Mais Dieu veut aussi nous donner un espoir pour le royaume. Et je me dis, mais comment, à la place de Néhémie, j'aurais prié? Vous auriez prié comment? Seigneur, fais un miracle? Quelqu'un a une autre idée? Vous auriez tous prié comme Néhémie, c'est ça? Moi, souvent, quand je suis devant des situations où je ne sais même pas comment commencer, je dis, Seigneur, résous le problème, s'il te plaît. Ah, et après, souvent, ça continue par, Seigneur, envoie quelqu'un. Et je crois que Néhémie nous montre une autre voie. Et je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut prier à chaque fois, mais je crois que parfois, c'est la bonne façon. Et qu'à un moment ou un autre de notre vie chrétienne, de notre vie d'église, on a besoin de passer par là. Et je ne veux pas le généraliser, mais peut-être c'est l'occasion pour plusieurs d'entre nous ce matin, et peut-être en église, de pouvoir faire cette prière-là. Au verset 5, j'ai dit Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Néhémie, ce qu'il commence à faire, il commence à se rappeler qui est Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu est fidèle malgré nos chutes. Dieu est présent malgré nos détresses. Et Dieu tient ses promesses. Tu peux rappeler à Dieu ses promesses. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est tout-puissant et il est bien plus fort que nos difficultés. Et ce matin, j'ai envie de te dire, mais si tu vis quelque chose de difficile, tu peux commencer par cette prière. Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable. Dieu est plus grand que nos difficultés. Dieu est plus grand que nos désespoirs. Et c'est là où ça va peut-être aller dans le sens inverse de tout ce qui est du coaching et ainsi de suite, mais le problème, ce n'est pas ton manque de confiance en toi. Le problème, ce n'est pas ton manque de confiance en toi. Le problème, c'est notre manque de confiance en Dieu. Ce qui fait la force de Néhémie, c'est qu'il croit en un grand Dieu. Je t'invite à croire ce matin en un grand Dieu. Dieu est grand. Et la deuxième chose qu'on voit ici, c'est que Néhémie ne dit pas ce qu'il a fait pour Dieu pour peut-être mériter que Dieu l'exauce. Mais Néhémie, ce qu'il fait, c'est qu'il compte sur la grâce de Dieu. Dieu est fidèle. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain. Nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Néhémie, là, on voit qu'il est réaliste dans l'évaluation du problème qui est devant lui et il va droit au cœur du problème, le problème majeur. Vous voyez, les Israélites à Jérusalem, ils ont désespérément besoin d'un leader, on est tous d'accord là-dessus. Pour organiser les travaux, la vie de la société, redonner du punch. Mais le problème, ce n'est pas un manque d'organisation ou un manque de leader. Bien que le projet de reconstruction, ça nécessite des pierres, du bois, de l'argent, de la main-d'œuvre, le problème fondamental, ce n'est pas un manque de ressources ou un manque de main-d'œuvre. Le problème fondamental où Néhémie pointe directement le doigt, c'est le problème du péché. Alors le péché, ça fait un peu vieille France comme ça, mais c'est toutes les fois où on ne fait pas confiance à Dieu. Toutes les fois où on veut s'en sortir par nous-mêmes, sans être dépendant à lui. Toutes les fois où on se dit, bah, je vais décider moi-même sans consulter Dieu. Ou alors on sait ce que Dieu désire pour nous et on dit, bah, je préfère quand même faire mon affaire à moi. C'est aussi l'abandon de Dieu, de dire, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Et finalement, c'est ce qu'on vit peut-être dans notre quotidien par moment, c'est vivre sans tenir compte de Dieu. on met Dieu le dimanche à l'église quand on est sur notre chaise, et dans la semaine, il est où Dieu? Puis Néhémie dit, jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Lui, ma famille et moi, nous avons péché. Alors, c'est vrai que parfois, en tout cas, je pense, on a tous été concernés par ça, c'est plus facile de voir le péché chez les autres, non? Le nôtre, on le voit moins, parce que peut-être qu'on passe moins souvent devant le miroir. Et c'est vrai que parfois, je vous partage des anecdotes de prédicateurs. Alors moi, ça ne m'arrive jamais, hein, bien sûr, parce que je suis dans la bonne église. Nombre de fois, on m'a dit, mais... un autre prédicateur, hein, bien sûr. C'est dommage quand même que telle personne n'était pas là aujourd'hui, parce que là, c'était pour lui. Hein. Mais ici, on voit que Néhémie, il prie pour le péché du peuple et le sien, et il s'associe complètement à ça. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Néhémie confesse son péché, celui de sa famille, celui de son peuple, celui de son église. Si nous commençons à penser que notre besoin, ça consiste principalement à meilleure organisation, plus d'argent, meilleure communication, on attaque du mauvais angle. Et moi, je me suis fait piéger plein de fois là-dedans. On se dit, bah, on va investir dans le relationnel, on va investir dans la communication. Mais finalement, tant qu'il y a le péché, tant qu'on ne se repent pas, tu pourras envoyer les plus jolis mails du monde, tu pourras faire les meilleurs repas du monde pour quelqu'un, ça ne suffira pas. Besoin fondamental de notre Église, et des églises en général, c'est la repentance individuelle, familiale et d'église, tous ensemble, de notre péché. De toutes les fois où on a oublié le projet de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Toutes les fois où nos projets sont passés avant le projet de Dieu. Ou alors on s'est dit, ben ça sera pour plus tard. Bien, j'ai pas le temps, les circonstances ne sont pas les bonnes. Mon ami, les circonstances ne seront jamais idéales. Néhémie, il aurait pu dire, bon, on va attendre 15 ans, ça ira mieux. Non, ça aurait toujours été en ruine. Le péché, il aurait toujours été là. Toutes les fois, on vit pour nos propres objectifs au lieu de l'objectif de Dieu. Et le fardeau de Néhémie vient du fait de ressentir ce grand besoin du peuple. Il est conscient du grand péché du peuple. Pourquoi le peuple en est là aujourd'hui? Mais pourquoi lui aussi il est concerné pour ça? Vous savez, tous les réveils chrétiens ont commencé par la repentance et la consécration. Ce moment où on se réveille et on se dit, mais en fait, c'est ça qui est le plus important. La vie chrétienne, c'est jalonné de temps où on se repent. Ce n'est pas juste quand on rencontre Christ qu'on se repent, c'est régulièrement. Mais il y a des temps forts où en Église, on peut décider d'aller de l'avant, de confesser nos péchés et parfois notre légèreté. Arrêter de vivre pour moi-même, mais pour vivre pour le royaume de Dieu. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces temps-là? C'est qu'on a passé plusieurs années assez compliquées. On a vécu le Covid, on est progressivement ressorti de cette période-là, donc on est en mode cocooning, on essaie de s'encourager à redresser des choses dans nos vies personnelles, à remettre la façon de vivre les relations dans l'Église. On a vu ça, par exemple, dans le livre aux Éphésiens. Mais il y a des moments, comme aujourd'hui, on a besoin de se repositionner selon le projet de Dieu. De dire, mon projet, c'est le projet de Dieu. Et c'est là où je veux justement expliquer quelque chose. La repentance, c'est complètement différent de la culpabilité et de la honte. La repentance, c'est être conscient de nos péchés. Et de venir dans l'humilité devant Dieu et lui demander de nous transformer. La honte, la culpabilité, ça ne t'aidera pas. Tu vas pleurer. Il y a des personnes qui sont venues dans le bureau en pleurs. Ça fait un budget mouchoir énorme. Mais finalement, ils n'ont jamais changé après avoir imbibé des paquets et des paquets de mouchoirs. Quand on a seulement honte de notre péché, on n'avance pas dans la vie chrétienne. Ce qu'il y a dans la vie chrétienne, c'est la repentance, c'est un changement progressif pour ressembler à Christ, pour rentrer dans ses plans. Et je nous invite vraiment tous à vivre ces temps de repentance qui nous amènent à changer, à ressembler à Christ, à vivre selon ses forces à lui, pas selon les nôtres. Et c'est là aussi, je voudrais juste revenir sur la marque d'un leader. Je l'ai dit rapidement avant, c'est que vous regardez dans toute la Bible, il y a des personnages qui sont inspirants, mais il n'y en a aucun qui est parfait. Aucun qui a tout fait nickel. Et vous pouvez prendre n'importe quel leader, n'importe quel pasteur, n'importe quel ancien, n'importe quel ce que vous voulez. Ce n'est pas un sauveur. Et je me rends compte que parfois, en tant que membre de l'Église ou aussi peut-être en tant que leader ou responsable, on veut toujours être lisse, paraître parfait, il n'y a rien qui accroche, mais ce n'est pas ça la réponse. Il faut qu'on puisse vivre les choses de manière vraie et pas avoir des utopies sur qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qu'un leader, et ainsi de suite. La vérité est dans la Bible, c'est des personnes qui sont capables de se repentir. Ces personnes qui sont prêtes à souffrir pour accomplir la volonté de Dieu et non vivre dans leur confort. Et ce matin, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de vivre par la grâce de Dieu. Prendre ce fardeau que Dieu te confie et vivre pour le royaume de Dieu. Mais ce fardeau, ce n'est pas un poids, c'est une grâce. Parce que ça te permet de voir comme Dieu y voit, de ressentir ce que Dieu y voit. Et nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur quotidien. Et Dieu est fidèle malgré nos chutes. Verset 8, « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit où j'ai choisi de faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ce que tu as racheté par ta grande puissance et ta force. » C'est ça cette bonne nouvelle qu'on a chantée toute cette matinée. Et là, je voudrais juste revenir sur quatre aspects rapidement. Rebelle, ça implique d'être séparé de Dieu, de dire « je peux vivre sans Dieu ». Revenir à Dieu, ça implique la repentance qu'on vient de voir. Ce n'est pas de pleurer sur notre honte ou notre culpabilité, mais un changement d'attitude et de dépendance à Dieu. C'est ça la repentance. Et enfin, c'est rassembler. C'est le but de Dieu. C'est ça, c'est là où sa gloire est manifestée. Rassembler tous ceux qui lui appartiennent pour honorer Dieu. La volonté de Dieu est de rassembler son peuple, rassembler son Église, parce qu'il a payé pour toi, il a payé pour notre Église par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et là, je trouve que ce qui est fort et puissant, c'est que Néhémie ne dit pas simplement « c'est mon peuple », il s'associe à eux. Maintenant, il rappelle à Dieu « c'est ton peuple ». Aujourd'hui, ce n'est pas l'Église des responsables ou de je ne sais pas trop qui. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé pour nous. Et c'est pour ça que je voudrais juste aborder ça, parce qu'on sort du Covid, on a besoin de retrouver nos bonnes habitudes. Et je vais le dire, peut-être ça va choquer l'un ou l'autre, mais nous avons besoin de nous rassembler tous ensemble lors des temps de culte. Chaque dimanche où tu peux être là, sois là. Si tu as des vacances, sois béni, on est content pour toi. Si tu vas voir ta famille, on est content pour toi. Si tu as une activité, si tu es malade, enfin si tu es malade, on va prier pour toi. mais en tout cas, voilà. Quand on a l'occasion, soyons là, soyons rassemblés, honorons Dieu, adorons-le. S'il faut faire deux cultes, trois cultes, on les fera.
Amen.
Bon, j'espère qu'on a le bâtiment rapidement quand même. Mais nous sommes rachetés par la grande puissance de Dieu, par la force de Dieu, et Dieu est fidèle dans ses promesses. Et Dieu nous dit qu'il bâtit son Église. Et c'est ça le projet de Dieu. Et vous savez, parfois, on parle de la gloire de Dieu et on peut chacun avoir notre définition de qu'est-ce que la gloire de Dieu. Les pharisiens avaient leur notion de la gloire de Dieu, c'était d'être parfait et ça ne marchait pas. Donc, ils rajoutaient plein de pommades et tout ça pour cacher la misère. Mais ce n'est pas ça, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cheminer avec Christ. Mais c'est là où, justement, je voudrais juste lire... En Matthieu 16, verset 18. Ouais, je sais, mais je suis perdu. Et c'est Jésus qui dit ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Jésus est en train de donner ce pouvoir, cet ordre à l'église. Nous devons discerner. Nous devons savoir que nous sommes le royaume de Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous représentons l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons vivre de manière cohérente. Et c'est là la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de discerner qui est un disciple authentique de Jésus-Christ. Après, c'est Dieu qui le sait, nous sait imparfaitement. Mais es-tu dans l'Église? Appartiens-tu à Christ? Et justement, en Apocalypse, c'est là qu'on voit vraiment la finalité de tout ça. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est ce qui est dit de Jésus. Car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur terre. Quelques versets après, « Je regardais, j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » C'est ça la gloire de Dieu. C'est de rassembler des personnes de toutes les tribus pour l'adoration de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le projet de Dieu? Nous vivons dans un âge où on est tellement centré sur l'homme, la recherche de son bonheur, pour nous facilement tomber dans l'erreur de penser que le but de Dieu, ce serait de sauver des gens parce que Dieu les aime et qu'il voudrait qu'ils soient heureux. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois on a dit ça? Et là, si on restait seulement sur ça, ce serait un objectif qui serait centré sur l'être humain. Le projet de Dieu n'est pas centré sur l'homme. Le projet de Dieu est centré sur Dieu. Le projet de Dieu n'est pas centré sur l'homme, il est centré sur Dieu. Dieu aime les hommes. Dieu t'aime et il veut que tu sois heureux. Mais pas n'importe comment. Mais il a plus encore. Dieu veut sauver des hommes et c'est un moyen pour accomplir le projet de Dieu que les hommes de toutes les nations l'adorent. Regarde autour de toi. C'est ce qu'on commence à vivre aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va fêter aussi le 21 mai ensemble. C'est un espoir pour le royaume. Et enfin, verset 11. « Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. » Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Néhémie, c'est un terme un peu ancien, c'est l'échanson du roi. Qui sait qu'est-ce que c'est un échanson? Non. Il sert le vin. Hein? Il goûte. Un œnologue. Encore autre chose? Alors, vu l'heure, je vais donner les réponses, désolé. Néhémie, donc, c'est les chansons du roi, donc peut-être il chante, mais ce n'est pas son job. Et une position vraiment de haut niveau au niveau de la cour, et sa responsabilité, c'est de choisir les vins. Donc c'est un homologue. Il doit goûter le vin, donc, pour s'assurer qu'il soit bon, mais aussi pour s'assurer que le vin ne va pas tuer le roi. Il doit s'assurer que la nourriture et les boissons ne sont pas empoisonnées. C'est un homme qui est bien formé, qui connaît le protocole, qui connaît la politique. C'est quelqu'un en qui le roi met sa vie tous les jours entre ses mains. C'est pas n'importe qui. Mais c'est quelqu'un, du coup, avec ce lien-là, c'est un ami. C'est quelqu'un, il faut pouvoir compter sur lui, en fait. Et dans l'histoire, ça s'est vérifié qu'il ne servait pas que du vin. C'est quelqu'un qui avait souvent des charges administratives. Parfois, c'était le second du roi, parfois il gérait les comptes, parfois il gérait des aspects du royaume qu'il administrait. Et comprenez que Néhémie, il vit dans le palais du roi à Suse. Donc c'est le lieu où il faut être hein, de ce temps-là. C'est la bonne ville, le bon palais, et c'est le dirigeant qui règne sur tout le monde connu de l'époque. Les fouilles archéologiques ont montré que ce palais a été construit avec du cèdre, de l'or, de l'argent et de l'ivoire. Les murs sont décorés avec des briques vitrées de couleur et des motifs en bas-relief dans les murs. Néhémie mange la même chose que le roi. Il porte les meilleurs vêtements, il doit toujours être bien présentable et il loge dans un environnement qui est confortable. Son travail, il est motivant, il est confortable. Il ne se posait pas la question de sa retraite. Je ne parle pas de la durée, hein. Et nous verrons que Néhémie, c'est un homme qui est précieux pour le roi parce que le roi, il ne veut même pas vraiment le laisser partir ou pas trop longtemps. Et Néhémie dispose d'une fortune personnelle qui va lui permettre de subvenir aux besoins des travaux et même d'entretenir les personnes qui vont travailler avec lui. Imaginez le quotidien de Néhémie. Tous les jours, il passe dans la galerie des glaces, peut-être à Versailles. Il voit les trucs magnifiques avec de l'or, il mange de la bonne nourriture, il se pose aucune question sur sa sécurité. Il y a des gardes du corps autour de lui. Ça se trouve, il en a même pour lui. Et après, il entend parler de Jérusalem, il n'y a même pas de mur, il n'y a pas de porte. Et les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Néhémie aurait pu dire, ben, waouh, c'est vraiment dommage. Hein. J'espère que quelqu'un fera quelque chose pour eux. Moi, je ferai un don sur Eloasso. Et je rajoute un petit mot de tout cœur avec vous. Non, il n'a pas fait ça, il n'y avait pas Eloasso. Mais Néhémie vit pour la gloire de Dieu et le bien de son peuple. Et il est prêt à s'engager dans cette tâche. Il est prêt d'y mettre du sien. Et il va payer un lourd tribut. Je pense qu'il a perdu des années de vie hein, avec ce qu'il va faire par la suite. Il est prêt à aller à Jérusalem. Il est prêt à aller lui-même travailler avec la truelle. Il est prêt à mobiliser pour reconstruire les murs et honorer Dieu. Et on va voir qu'il fera l'objet de beaucoup de pression, mais je vous donne un secret, il va y arriver avec l'aide de Dieu en 52 jours seulement. Mais ce qui prie, c'est permets-moi de gagner la compassion de cet homme. Il sait que Dieu est plus fort, il est plus puissant et il peut toucher le cœur même des dirigeants. Et il est engagé pour le royaume des dieux et il est prêt à y mettre du sien. Et ce matin, j'ai envie de te dire, bon, la prédication est plus longue que d'habitude, désolé, mais Dieu veut te laisser un fardeau pour sa gloire. Un fardeau pour la gloire biblique de Dieu, de rassembler l'Église, de contribuer à l'unité. Dans Éphésiens, il ne nous est pas dit de prier pour l'unité, il nous est dit de la conserver. C'est un choix personnel de conserver l'unité, de ne pas calomnier, d'encourager les frères et les sœurs à regarder à Dieu pour que plus de personnes l'adorent et que nous l'adorions de mieux en mieux. C'est un espoir aussi pour le royaume, un espoir qui est biblique, de voir tous les peuples qui adorent Dieu. Quand la dernière fois t'es-tu mis à genoux pour demander à Dieu d'intervenir pour notre Église, pour notre région? Enfin, c'est un engagement. On voit que Néhémie est prêt à payer le prix. Et je le dis souvent, alors je sais que peut-être parfois, je l'exprime peut-être pas de la bonne façon, mais lorsque tu pries, tu dois être prêt à t'engager derrière aussi. Prière et action, ça va ensemble. Tu peux lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les personnes qui prient, les personnes qui prophétisent, qui rappellent qu'est-ce que Dieu veut. ils sont prêts à y aller après. Et je pense que si au moment de prier, on réfléchissait de cette façon-là, soit on n'oserait plus prier certaines choses, mais bon, ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, je pense qu'on serait beaucoup plus présent dans nos prières, beaucoup plus pertinent. Et je vous invite à la prière. Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de moi, ton serviteur, que je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs de notre Église en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Lui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté ta sainteté, ta gloire. Nous avons été négligents dans nos engagements, notre adoration, notre service. À de nombreuses occasions, tu n'as pas été la priorité de nos vies. Ton royaume, ton Église n'a pas reçu l'attention que nous devions lui consacrer. Nous n'avons pas appliqué tes commandements. Nous avons davantage craint les hommes que toi. Cette crainte sainte divine qui sauve. Nous nous sommes conformés à la façon de faire de la société et non à la parole de ton royaume. Souviens-toi donc de la parole que Jésus a ordonnée à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sommes tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton Église. Permets-nous d'être une Église engagée et authentique qui t'aime, toi, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et qui aimons notre prochain comme nous-mêmes. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen.